écoute.
RTL Midi.
Le 12h.
Céline Landreau et Éric Brunet.
Bonjour à tous et pardon pour cette voix un peu rocailleuse. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce RTL Midi. 2h30 d'information, d'opinion jusqu'à 14h30. Et l'info, c'est jusqu'à 13h. Et c'est avec vous, Céline Landreau. Bonjour.
Bonjour Éric. Bonjour à tous. Et à la une, donc un lynchage à la sortie du collège et beaucoup de questions au surlendemain de l'agression de Samara. Cet ado de 14 ans, roué de coups devant son établissement scolaire, mardi en fin d'après-midi. Trois ados sont toujours en garde à vue pour tentative de meurtre. Elle-même, sortie du coma, livre aujourd'hui sa version aux enquêteurs. Mais d'après sa famille, il y a eu harcèlement, peut-être sur fond de tensions religieuses. On y revient en détail dès le début du journal. Ils sont partout, de vos poils à vos mascaras. Les députés veulent bannir les PFAS, les polluants éternels. Très présents dans votre quotidien, mais vous le verrez, loin d'être bénin. La pollution aussi dans le bassin d'Arcachon, où sous la pression des ostréiculteurs, la justice ordonne aux élus de prendre rapidement des mesures pour éviter de souiller le bassin avec les eaux usées. Un coup de fil et des comptes rendus très différents entre Paris et Moscou. Les ministres des armées françaises et russes se sont parlé, mais les relations sont loin d'être apaisées. On en parle dans 10 minutes. Et puis attention, après le chocolat, c'est le prix du café qui s'envole et la facture pour la tasse au comptoir risque d'être bientôt plus salée. À partir de 13h, un seul numéro, le 3210, pour discuter avec vous. Éric, dans les auditeurs, on la parole.
Montpellier, Samara, 14 ans, roue et de coups, elle sort du coma et sa maman le dit, on la traitait de mécréante. On n'est pas certain que ce soit l'explication de ce déchaînement de violence, mais quand même, nous en parlerons à partir de 13h. Vous nous appelez au 3210, le standard est ouvert.
La météo avec vous aujourd'hui, Peggy Broche. Bonjour Peggy.
Bonjour Céline, bonjour à tous.
Qu'est-ce qui nous attend cet après-midi?
Une France coupée en deux avec un temps bien gris et pluvieux sur la moitié nord et ensoleillé dans le sud.
Merci Peggy, les détails évidemment à la fin du journal.
RTL Midi.
Comment expliquer un tel déchaînement de violence au surlendemain de l'agression de Samara, 14 ans, devant son collège de Montpellier? Les questions sont nombreuses et l'adolescente pourrait apporter une partie des réponses aujourd'hui. Sortie du coma hier, elle est en effet actuellement entendue par les enquêteurs, alors que trois autres ados sont toujours en garde à vue pour tentative de meurtre sur mineur. Bonjour Maxime Lévy.
Bonjour.
D'abord, rappelez-nous les faits, Maxime. Que sait-on de ce qui s'est passé mardi après-midi, avant-hier, devant le collège Arthur Rimbaud?
Eh bien, la mère de Samara le raconte, elle reçoit un coup de fil du collège mardi midi pour venir chercher sa fille. On lui dit que plusieurs de ses camarades l'attendent à la sortie pour en découdre. Vers 17h15, cette jeune collégienne de 14 ans sort tout de même. Selon les témoignages, une vingtaine de jeunes l'attendent. Elle est rouée de coups, frappée à la tête violemment par au moins trois personnes du groupe, selon le procureur de Montpellier. Très grièvement blessée, elle est hospitalisée dans la foulée. Elle est placée dans un coma artificiel avant d'être réveillée hier après-midi et entendu ce matin.
Dans la foulée, plusieurs personnes ont été interpellées, Maxime.
Oui, trois mineurs, deux garçons de 14 et 15 ans, une jeune fille de 14 ans soupçonnée d'avoir participé à cette agression ultra-violente. Ils sont en ce moment entendus pour tentative de meurtre sur mineur en garde à vue. Le procureur souligne que les enquêteurs sont à la recherche d'autres participants ayant potentiellement porté des coups.
Maxime, ce que les enquêteurs cherchent à comprendre maintenant, c'est le pourquoi de cette agression. Samara, apparemment, s'était plainte de harcèlement.
Oui, à sa famille, notamment, elle dénonce un harcèlement quotidien dont elle était victime. Le collège également était au courant. La rectrice de l'Académie de Montpellier assure qu'une mesure disciplinaire avait été prise au sein du collège l'an dernier à propos d'un élève qui harcelait la jeune collégienne.
Et puis, pour la famille de Samara, ça c'est important, hein, ces violences pourraient avoir une explication religieuse.
Oui, alors il faut rester prudent. Deux choses. Selon la famille, elle aurait été agressée parce que certains élèves musulmans ne supportaient pas son mode de vie, qu'elle ne porte pas de voile, par exemple, qu'elle se maquille tout en se faisant traiter de mécréante. Ça, c'est ce qu'affirme la mère de Samara. D'autres élèves contactés, s'ils décrivent bien une situation de harcèlement, ne décrivent pas ce côté religieux. Donc, à ce stade, l'explication religieuse n'est pas encore établi par l'enquête, cela reste des éléments déclaratifs. Prudence, donc l'audition de la jeune victime ce matin devra éclaircir ce point.
Merci beaucoup Maxime Lévy du service police justice d'RTL et on vous invite évidemment à réagir, hein, chers auditeurs, le 3210 est déjà ouvert.
Oui, on en parle à midi, hein. À 13h pardon.
Une centaine de gendarmes toujours mobilisés pour continuer de fouiller le Haut-Vernay et tenter de retrouver de nouveaux indices pour expliquer le décès du petit Émile. Le directeur général de la gendarmerie nationale se rend d'ailleurs sur place aujourd'hui pour rencontrer les enquêteurs et discuter d'éventuels moyens supplémentaires à mettre en place. Lui avait été condamné à 18 ans de prison pour viol et agression sexuelle sur 15 femmes. C'est une information RTL. Salim Berada, celui que l'on a surnommé le violeur de Tinder, a décidé de faire appel de cette condamnation.
On vient de l'apprendre. Également, la Cour européenne des droits de l'homme a condamné la France pour les conditions de vie des harkis dans les camps d'accueil dans les années 60.
Des camps dans lesquels des familles ont passé effectivement plusieurs années à leur retour d'Algérie dans les années 60-70 dans des conditions qui n'étaient pas compatibles avec le respect de la dignité humaine, selon la CEDH, qui considère donc que les montants des réparations accordées par les juridictions internes françaises ont été insuffisants.
RTL Midi.
Et puis pendant des années, ils étaient de moins en moins nombreux, mais depuis 2 ans, les vols de voitures repartent à la hausse.
Oui, 5% de plus encore l'an passé par rapport à 2022, soit 140 000 voitures volées au total dans le pays, selon l'Observatoire des vols Coyotes. Christophe Bourou, les cambrioleurs se jouent en fait de plus en plus facilement des protections électroniques.
Oui, fini, terminé, vous savez, le brise-glace, place maintenant au vol électronique. Le plus à la mode, pirater les ondes émises par les clés de votre Peugeot 3008 ou Renault capture. Pour faire simple, vous sortez de votre voiture, vous appuyez sur la clé qui fait bip bip. Vous
pensez comment, elle fait comment la clé, pardon ?
Bip bip, je le fais bien. Vous pensez que les portes sont verrouillées, évidemment. Sans vous rendre compte, des personnes placées à proximité ont piraté les ondes émises par vos clés grâce à un brouilleur, acheté bien souvent sur le Darknet, vous savez, le marché noir d'Internet. Ensuite, grâce à un simple ordinateur, ils se connectent à une prise pour accéder au cerveau de la voiture et en moins d'une minute, pas d'effraction, pas de vitre brisée. Le tour est joué, la voiture a démarré.
Et quels sont les modèles de voitures qui sont les plus prisés des cambrioleurs ?
C'est très simple, les voitures les plus volées sont les plus vendues. Selon les chiffres publiés par les assureurs, la Renault Clio 4 modèle star est en tête du classement devant une autre Renault, la Mégane. À noter que la cote des SUV ne cesse de grimper, plus 62%. Ainsi, le Peugeot 3008 et la Toyota RAV4 se classent parmi les 5 modèles les plus volés en France. Cela fait quand même un vol de voiture toutes les 4 minutes dans l'Hexagone.
Merci beaucoup Christophe Bourou.
Et puis après le cacao, c'est le tour du café. Le prix du Robusta atteint son plus haut historique.
Cette variété de café très utilisée pour les expressos ou encore le café soluble a vu son prix bondir de 50% sur un an pour atteindre jusqu'à 3 800 $ la tonne. Et l'explication, Pierre Herbulot, elle est à chercher du côté du Vietnam.
Oui, c'est le premier producteur mondial, sauf que la météo y est très défavorable cette année. Le café a besoin d'un temps sec et chaud pour pousser, mais là c'est trop chaud et trop sec. Le pays d'Asie du Sud-Est vient de battre ces derniers mois des records de chaleur, accompagnés d'un niveau historiquement bas de précipitations. Résultat, 1/5 de la production va manquer cette année. 400 000 tonnes de Robusta en moins, d'après l'association vietnamienne des exportateurs de café. C'est ça qui fait monter les cours, plus les tensions en mer Rouge, avec des navires cargo attaqués par les rebelles Houthis. C'est la principale route maritime entre l'Asie et l'Europe. Heureusement, l'Arabica, l'autre grain de café, résiste mieux. Le problème, c'est que les industriels qui achètent du Robusta pourraient être tentés de passer à l'Arabica. Et là, plus de demandes, c'est un prix qui augmente aussi. On est perdant à tous les coups. Ce type d'inflation liée au dérèglement climatique, on en voit aussi sur le cacao et sur les oranges. Il faudra s'y habituer, préviennent les grands groupes industriels.
Pierre Herbulot pour RTL. En Ukraine, Volodymyr Zelensky dénonce une attaque méprisable et cynique après les frappes nocturnes russes qui ont fait 4 morts à Kharkiv, dont 3 secouristes la nuit dernière et 10 de blessés. L'Ukraine, toujours accusée par la Russie d'avoir joué un rôle dans l'attentat qui a visé une salle de concert de Moscou le 22 mars dernier, faisant plus de 140 morts. Et cela, vous le savez, malgré la revendication de l'État islamique. Les autorités russes, qui sont d'ailleurs allées plus loin après un échange téléphonique entre les ministres des armées russes et français, en disant espérer que les services secrets français n'étaient pas impliqués dans l'attentat. On y revient longuement dans quelques minutes. Et puis Emmanuel Macron, justement, à ce propos, dénonce à l'instant des propos baroque et menaçant à propos de ces accusations russes. Le chef de l'État qui inaugure actuellement le centre aquatique de Saint-Denis, hein, qui servira évidemment pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Emmanuel Macron qui a assuré par ailleurs que malgré la menace d'attentat qui pèse sur la France, la cérémonie d'ouverture des JO sur la Seine reste à ce stade privilégiée. La météo justement avec vous, Peggy, pour cet après-midi.
Une France coupée en deux avec un temps bien gris et pluvieux encore sur la moitié nord. Alors la perturbation de ce matin...
On peut en témoigner, petit coup de froid avec humidité. Hein.
Mais il faut vous couvrir, Eric.
Bah oui, mais vous ne m'avez pas prévenu.
Bah, si, je
vous ne m'avez pas prévenu.
Vous ne m'avez pas écouté, c'est pas pareil. Donc la perturbation de ce matin est en train de s'évacuer par l'est. On aura ce qu'on appelle un ciel de traîne entre nuages, éclaircies, des averses plus actives sur le Grand Est, localement orageux cet après-midi. Et une nouvelle perturbation arrive par la Bretagne et la Normandie. Elle donnera beaucoup de pluie également. Le tout avec du vent sur les régions centrales entre les Hauts-de-France et l'Île-de-France. Un peu moins de pluie que ce matin, mais toujours du vent. Et puis sur la moitié sud, c'est un temps sec et ensoleillé, plus ensoleillé entre le sud de la Garonne et le sud de la région PACA. Tout sous des températures qui sont au-dessus des normales, souvent 2 à 5 degrés au-dessus, avec 14 à Brest, 16 à Lille, 18 à Paris et Nice, 19 à Montpellier, 21 à Marseille, 22 à Bordeaux, 24 à Toulouse et 25 à Biarritz. Et concernant les vigilances, je rappelle que Lyon est sorti de la vigilance rouge, mais est en vigilance orange crue, ainsi que l'Aube.
Merci Peggy.
RTL Midi, un jour chez vous.
RTL Midi, un jour chez vous, chaque jour l'info est au plus près de vous. Et aujourd'hui, direction le bassin d'Arcachon, pollué l'hiver dernier par des eaux usées.
Oui, des milliers de personnes avaient été intoxiquées après avoir dégusté des huîtres du bassin contaminé. Bonjour Philippe de Maria.
Bonjour.
La justice ordonne aux élus locaux de prendre des mesures rapidement.
Oui, car cette pollution continue. J'ai pu le constater dans ce lotissement de Lenton, juste à côté d'un bassin de rétention. Les égouts débordent. C'est ce que vous entendez derrière moi. C'est pas le son d'une jolie rivière qui coule. Et je vous passe l'odeur absolument immonde que doivent supporter les riverains comme Virginie Mallet, que l'on peut considérer comme une lanceuse d'alerte.
Là, ce qu'on voit et ce qu'on entend, c'est une résurgence d'eau usée par un regard du système d'assainissement. Et donc, c'est un déversement sauvage d'eau brute et d'égout. C'est l'eau du bain, l'eau de la vaisselle, l'eau du ménage et puis l'eau des toilettes. C'est pestilentiel, c'est âcre, c'est pas digne du territoire, évidemment.
Alors, le juge ordonne des travaux pour stopper cette pollution. Maître Ruffier porte ce dossier pour la CEPENSO.
C'est évident que le juge relève qu'il y a des déversements illégaux de matières fécales. Les décideurs étaient dans le déni complet. La justice les contraint à faire des travaux, à prendre des mesures immédiates, à échéance 1 mois, échéance 4 mois, échéance 6 mois, pour mettre fin à ces déversements illégaux.
Et si les élus du syndicat intercommunal ne réalisent pas de travaux, l'astreinte sera de 1000 euros par jour. Et pour le moment, ils n'ont pas répondu à mes sollicitations. C'est bien dommage.
Philippe, je ne sais pas si c'est lié, mais c'est vrai que dans ce bassin d'Arcachon, ce lieu de légende, il y a une urbanisation outrancière. Ouais.
Exactement, en l'espace de 30 ans, c'est devenu quasiment une métropole, 140 000 habitants à l'année. En plus, évidemment, on rajoute les touristes l'été, les militants environnementaux demandent une pause. Écoutez Jacques Storelli, sa coordination regroupe 26 associations sur le bassin.
On vient de publier le schéma de cohérence territoriale qui prévoit 30 000 logements de plus d'ici 15 ans. Est-ce que c'est raisonnable au moment où on supporte ces pollutions qui découlent, sans jeu de mots, des activités humaines et de l'artificialisation? Est-ce que c'est raisonnable de rajouter 30 000 logements quand tout déborde? C'est systémique, le système ne tient plus.
Alors la justice a aussi ordonné des analyses de la qualité des eaux du bassin par un labo indépendant. Et je vous rappelle qu'une autre plainte au pénal pour écocide a été déposée par les assos qui veulent préserver ce milieu splendide, vous le disiez Eric, mais fragile qu'est le bassin d'Arcachon.
Philippe de Maria, merci beaucoup pour RTL. Vous le savez, chaque jour après le journal, on s'arrête pour développer l'un des titres de l'actualité du jour. On vous en parlait dans le journal, ce coup de fil entre les ministres des armées russes et français. Un dialogue qui reprend, mais des tensions qui restent très vives.
On a cru que c'était une bonne nouvelle, et en fait
pas sûr.
Douche glacée.
On vous en parle dans un instant.
RTL, pour tout comprendre de l'actualité. Céline Landreau, Éric Brunet, RTL Midi.
Alors ça, c'est un coup de fil qui a fait vraiment beaucoup de bruit, parce que les ministres des armées français et russes se sont parlé, figurez-vous, hier dans la journée, d'ailleurs au téléphone, et pardonnez-moi, mais c'est une première depuis 18 mois, depuis octobre 2022.
Pour en parler avec nous, Sylvie Berman, diplomate française, ancienne ambassadrice de France en Russie, bonjour.
Bonjour.
et Sophie Jousselin du service international d'RTL. Bonjour Sophie.
Bonjour.
Une conversation dont les comptes rendus, Sophie, ont ensuite été très différents d'une capitale à l'autre.
Oui, alors côté français, on explique que le ministre a appelé son homologue russe pour condamner l'attentat de Moscou du 22 mars, pour rappeler que la France est prête à partager des informations dans la lutte contre le terrorisme. Sébastien Lecornu a répété que rien ne permettait de dire que l'Ukraine était derrière cet attentat, ce qu'affirme pourtant Moscou. Et dans son communiqué, le ministère russe de la Défense va même plus loin. « Nous espérons que les services secrets français ne sont pas derrière cela », peut-on lire. Concernant la guerre en Ukraine, le ministre français a condamné de nouveau l'agression russe et réaffirmé le soutien de Paris à Kiev. Selon le ministère russe de la Défense, cet entretien a été l'occasion d'exprimer une volonté commune de reprendre le dialogue concernant la guerre en Ukraine. Des propos immédiatement démentis, la France n'a accepté ni proposé quoi que ce soit sur ce sujet, a-t-on déclaré dans l'entourage du ministre français.
Merci alors, Sophie.
Merci Sophie. Sylvie Berman, vous qui êtes une ancienne ambassadrice de France, c'est terriblement, c'est une vraie douche glacée parce que on se disait, ça y est, le contact est reparti entre Moscou et Paris. On parle, c'est déjà beaucoup, ça veut dire beaucoup. Et derrière, alors que Paris était disposé à donner des éléments importants sur le traçage de ces terroristes, apparemment des informations qu'ils avaient, derrière, les Russes disent, ah ben on espère que Paris n'a pas fomenté cet attentat. Enfin, c'est terrifiant comme petite phrase.
Oui, tout à fait, c'est assez indécent d'ailleurs, mais les Russes se sont enfermés dans ce narratif d'accusation des Ukrainiens et derrière les Ukrainiens de leur maître, donc cet Occident collectif. Mais en réalité, je pense que l'entretien est quand même utile. Parce que même si les comptes rendus sont divergents, bien entendu, le message français est passé. Et le message français, c'est quand même la priorité à la lutte contre le terrorisme qui concerne aussi bien la Russie que la France et l'Occident, et en particulier à la veille des Jeux Olympiques.
Finalement, ce coup de téléphone, c'est Sébastien Lecornu hein, qui a appelé Sergueï Choïgou, le ministre de la Défense russe, donc ça vient de la France. Ça voulait dire, malgré les difficultés, malgré le fait que nous soyons adversaires, nous avons aussi des ennemis communs, c'est le terrorisme islamiste. Mais ça n'a pas marché.
Bon, ça n'a pas marché, il faut voir ce qui se passe, c'est-à-dire quel est le suivi, si effectivement il y a davantage d'échanges d'informations. À l'époque où j'étais ambassadeur à Moscou, il y avait une coopération antiterroriste et les Russes qui évidemment sont bien informés sur ces ressortissants islamistes, tadjiks du Caucase, donnaient ces informations. Bon, maintenant c'est évidemment plus compliqué puisqu'ils se sont focalisés sur l'Ukraine. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne donneront pas suite. Ils ont effectivement, vis-à-vis de leur population, parce qu'il y a quand même une responsabilité russe de ne pas avoir écouté les avertissements des services occidentaux, et ils ont besoin de se justifier de cette manière-là. Donc c'est un communiqué qui est à destination de la population russe, et encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est un échange téléphonique pour rien.
Signe en tout cas que ces tensions sont loin d'être apaisées. Emmanuel Macron, il y a quelques minutes, alors qu'il visite le nouveau complexe nautique là qui servira pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, le chef de l'État déclare qu'il n'a aucun doute sur le fait que la Russie cible les Jeux Olympiques de Paris 2024, notamment en termes informationnels. Ça veut dire que la confiance, elle est loin, très très loin d'être établie.
Oui, tout à fait. Il n'y a pas de confiance aujourd'hui, mais encore une fois, c'est un enjeu qui est essentiel. Et si, évidemment, en plus, les Russes sont furieux d'avoir été écartés des Jeux et de l'ouverture des Jeux, en tout cas sous le drapeau, ça ne veut pas dire pour autant qu'ils vont favoriser un attentat ou laisser faire s'ils ont des informations dans ce sens.
Oui, la petite phrase d'Anne Hidalgo, les athlètes russes et biélorusses ne sont pas les bienvenus, n'a pas favorisé les choses, c'est certain. Ça peut vexer les autorités russes. Merci beaucoup Sylvie Berman, on le rappelle, diplomate française, ancienne ambassadrice de France en Russie.
On marque une pause dans un instant, on va parler des PFAS, les polluants éternels. Les députés planchent actuellement sur leur interdiction, vous verrez qu'aujourd'hui ils sont partout, ou presque, et que ce n'est pas forcément une bonne nouvelle.
Votre avis compte.
Venez l'exprimer sur RTL au 32-10.
50 centimes la minute.
RTL Midi,
votre vie.
RTL Midi, votre vie, car l'info, c'est aussi ce qui fait votre quotidien. Et aujourd'hui, on parle d'une chose que je ne connais pas très bien, Céline Landreau, les PFAS.
Les PFAS, oui, qu'on appelle plus communément les polluants éternels. On en parle puisque les députés se penchent actuellement sur une proposition de loi visant à en restreindre l'utilisation. Bonjour Virginie Garin.
Bonjour à tous.
J'espère que vous allez être pédagogue, je n'ai jamais entendu parler des PFAS.
Et pourtant, vous en avez partout.
Ah, c'est vrai?
Ça, ils sont partout, ou presque. Mais expliquez-nous d'abord peut-être, et encore plus pour Eric, c'est quoi un PFAS?
Alors, il y a près de 5000 molécules qui sont utilisées absolument partout, dans les emballages, les cosmétiques, les prothèses de hanches, les vêtements de pompiers, ou les textiles quand ils sont imperméables, parce que ce sont des molécules qui sont extrêmement solides. Le problème, c'est qu'elles sont tellement résistantes qu'une fois dans la nature, elles y restent pendant des centaines d'années. Elles ne se dégradent pas, donc on les appelle les polluants éternels. Ça s'accumule, et à tel point qu'on en trouve dans l'eau, dans la terre, dans nos organismes, vous en avez sans doute, Eric, dans vos cheveux, dans votre corps, parce que des députés ont fait analyser leurs cheveux, ils en avaient tous des traces, y compris certaines substances interdites depuis plus de 10 ans.
J'imagine quand on mange des poireaux ou de la viande, d'ailleurs, il y en a. Oui.
Alors, il peut y en avoir dans certains pesticides, mais c'est surtout les matières qui composent nos téléphones, nos vêtements.
Non, mais les animaux doivent les ingérer comme nous.
Aussi, on en trouve par exemple beaucoup dans les crustacés, quand vous mangez des crustacés, parce qu'ils filtrent l'eau et il y en a beaucoup dans l'eau.
À part ces deux petits exemples du poireau où est-ce qu'on les trouve d'une manière générale?
Je vous dis par exemple les textiles imperméables, tout ce qui est Gore-Tex, les vêtements de pompiers, les batteries de voitures électriques, c'est vraiment des substances chimiques qu'on utilise depuis les années 50, donc depuis très très longtemps, et qui sont presque indispensables ou qui étaient indispensables pour l'industrie, sauf que comme elles s'accumulent dans l'environnement, on pense qu'elles vont devenir dangereuses.
Les PFAS.
C'est vraiment dangereux, vous dites, on pense que ça va devenir dangereux.
Alors, certains PFAS, oui. D'ailleurs, il y en a déjà qui ont été interdits, notamment des molécules qui sont toutes petites, qui s'infiltrent partout. Et puis, il y en a qui sont plus grosses, qui là seraient moins ou pas dangereuses. Mais c'est toujours pareil, hein, tout dépend de la dose. Donc, pour l'instant, on n'en sait rien. Donc, si on continue de les accumuler dans la nature, les scientifiques pensent qu'on finiront par être dangereux. Il y a en fait un débat. Par exemple, la substance qui sert à faire les poils Tefal, elle ne serait pas dangereuse, c'est ce que dit le groupe SEBD. Par contre, quand on fabrique ces substances dans l'usine, là, ça fait des composés cancérogènes qui se retrouvent dans la nature. Donc c'est pour ça qu'il y a des députés qui sont contre ces substances.
Donc on veut les interdire aujourd'hui.
Alors voilà, donc c'est les Verts qui ont déposé une proposition de loi qui est discutée depuis ce matin. Alors le débat est passionnant, j'ai écouté toute la matinée, parce que le gouvernement, lui, veut pas les interdire. Il veut se caler sur un calendrier européen. Il vient d'ailleurs de présenter un grand plan pour les encadrer, pour les contrôler, mais il dit qu'il y a trop d'industries qui ont besoin de ces matières, donc on va aller au rythme européen. Et puis il y a la droite, les Républicains. Alors eux, ils seraient prêts à interdire, mais il faut quand même sauver quelques secteurs. Et notamment, là, ils viennent de voter. Ils ont exclu les ustensiles de cuisine de cette interdiction. Ça veut dire que les poêles Tefal sont sauvés par les députés ce matin parce qu'ils estiment que l'enjeu économique est trop important. Il y a 3000 salariés qui travaillent sur ces chaînes de production. Donc, les interdire, ça aurait posé des problèmes pour ces usines-là.
Alors, c'est
salariés qui manifestaient, oui, on l'a entendu.
Hier, devant l'Assemblée nationale. Après, il faut savoir que Tefal, quand même, a des substituts. Hein. Ils font déjà des poils avec de la céramique ou avec de l'inox. Donc, il y a des solutions. Mais ça coûte plus cher. Et puis, surtout, il faudrait changer les chaînes de production très vite.
Ah oui, sur le plan industriel. Donc, j'ai compris pour Tefal. Mais d'une manière plus générale, ces PFAS, ces polluants éternels qui, vous venez de me le dire, sont dans mes cheveux. On peut les remplacer par quoi?
Alors, il y a des cas où c'est déjà possible. Par exemple, les fabricants de fartes, vous savez, pour farter les skis. Bon, eux, ils sont en train d'essayer de trouver des substituts. Les cosmétiques aussi, il y a des entreprises qui le font. Et puis, il y a d'autres produits où c'est plus difficile. Les prothèses de hanche. Bon, il faut qu'une prothèse de hanche, elle soit solide. On ne va pas vous opérer 3 fois de suite. Donc là, c'est plus compliqué. Les costumes, les vêtements aussi pour les pompiers. Donc justement, là, en ce moment, à l'Assemblée, il y a des députés qui voudraient déposer un amendement pour sauver, pour protéger donc les costumes pour les vêtements de pompiers.
C'est-à-dire qu'on les conserve dans ce qui est strictement indispensable.
Voilà.
Ces PFAS, ces polluants éternels, mais qu'on les enlève du superflu.
Je pense que ça va être le sens du vote aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils vont peut-être être interdits, sans doute pas avant 2027-2030, mais il y aura plein de dérogations pour des matières où pour l'instant ils sont jugés indispensables.
Merci beaucoup Virginie Garin. On marque une pause, dans un instant c'est le retour de l'info avec le journal de 12h30.
RTL Midi, Céline Landreau et Éric Brunet.
RTL, s'informer ensemble.
vous nous rejoignez et merci de rester avec nous. Si vous étiez déjà à l'écoute de ce RTL Midi, vous devez savoir qu'il est exactement midi et demi.
RTL Midi, le 12-30,
Céline Landreau, William Galibert.
Et à 12h30, effectivement, votre grande édition de la mi-journée avec vous, William Galibert, bonjour.
Bonjour.
À la une ce midi, mais pourquoi Samara, 14 ans, a-t-elle été agressée à la sortie de son collège de Montpellier ?
Sa mère affirme qu'elle a été traitée de mécréante par ses agresseurs. La police ne confirme pas pour le moment et son passage à tabac fait réagir jusqu'à Emmanuel Macron. L'eau du robinet plus chère pendant l'été, Toulouse fait voter la mesure aujourd'hui. Et Gaza, la colère ne retombe pas après la mort de travailleurs humanitaires tués par l'armée israélienne. Les États-Unis demandent des comptes.
Juste après le journal La Colère des buralistes, vous avez maintenant le droit de rapporter plus d'une cartouche, plus de 200 cigarettes d'un autre pays de l'Union européenne. Un changement de réglementation pour une harmonisation européenne qui met les professionnels en colère. On en parle avec eux après le journal. Et puis LVT Midi, votre rendez-vous culture, on vous emmène dans les coulisses d'une comédie musicale qui cartonne, Le Roi Lion. À partir de 13h, ce sera à vous de prendre la parole, le 32-10 et Éric Bonnet.
Trois sujets, mais on va commencer avec Samara, rouée de coups devant son collège. Sa maman, on ne le sait pas encore parce qu'elle est entendue par les policiers. Elle est tombée dans le coma, mais maintenant, elle est réveillée. Sa maman dit, elle était vêtue à l'occidentale, on la traitait de mécréante. Est-ce la raison ? On en parle au 32-10. Et puis nous parlerons de la colère des buralistes également. On pourra aller acheter plusieurs cartouches de cigarettes à l'étranger, en Union européenne. Et ils sont furibards. Et on les comprend. Voilà le programme.
La météo à la fin du journal pour les détails, mais déjà un indice, Peggy ?
Avec une France coupée en deux, un ciel gris avec des nuages, des averses et du vent sur la moitié nord et ensoleillé au sud.
Merci Peggy.
Jusqu'à 13h.
RTL Midi.
Harcelée, tabassée, Samara, 14 ans, a-t-elle été visée à cause de son style vestimentaire ?
Sa mère va même plus loin. Elle affirme que Samara a été traitée de mécréante parce qu'elle se maquillait, parce qu'elle ne portait pas le voile à la sortie des cours. Pour l'instant, la police procède à des vérifications et ne confirme pas. Patrick Tégéraud, on vous retrouve devant ce collège de Montpellier où a eu lieu l'agression avant-hier et où la maman de Samara était reçue ce matin.
Oui, ce matin, la maman de Samara voulait comprendre. Elle avait plein de questions, elle a eu quelques réponses. D'abord, elle voulait savoir pourquoi on avait laissé sortir sa fille alors qu'un attroupement l'attendait. En fait, Samara n'a tout simplement pas été prévenue.
Elle a resté sur l'information que maman lui dit tous les jours, dès que tu sors, tu prends le bus scolaire.
Asiba Radjoul est la maman de Samara.
Elle allait pour prendre le bus scolaire et on ne lui a pas dit qu'il fallait qu'elle patiente le temps que sa mère arrive.
Donc, pourtant, c'est le professeur principal qui vous avait prévenu qu'il y avait un attroupement devant devant le portail.
Oui, c'est ça, exactement. Des élèves qui sont étrangers au collège, qui sont restés pendant plus de 3 heures devant le collège, on se dit au bout d'un moment, je ne sais pas c'est quoi la procédure, est-ce qu'il faut appeler la police, est-ce qu'il faut... Le professeur, par contre, leur a demandé de partir des abords du collège. Ils ont refusé. Ils étaient déterminés à s'en prendre à ma fille, quoi.
Et puis un début d'explication à l'inexplicable. Djibril est en quatrième et il nous décrit l'engrenage qui a abouti au lynchage de Samara.
Enfin, les gens, ils sont jaloux d'elle parce que genre elle s'habille bien et tout ça. Et les gens, genre ils aiment pas les personnes comme ça. Et des fois, ils font des réputations.
Ça veut dire quoi, faire une réputation ?
Genre, par exemple, ils vont croire à des gens qu'elle fait des trucs bizarres. Par exemple, ils disent aux gens qu'elle se fait toucher sexuellement. Les gens, ils vont croire que c'est vrai alors que c'est pas vrai. Et après, ils vont commencer à la frapper. Tout ça. Ils vont insulter.
Est-ce que tu crois qu'il y a un fond religieux dans tout ça ?
Non, je pense pas. C'est pas par rapport à la religion. Parce que les deux, elles sont musulmanes. Et du coup, je pense pas qu'il y aurait eu un conflit comme ça.
Oui, tout ça, bien sûr, a été exacerbé par les réseaux sociaux. Alors, on attend désormais les explications de la directrice académique des services de l'éducation nationale. Elle est en réunion avec l'équipe éducative du collège Arthur Rimbaud, sûrement très embarrassée.
Merci Patrick Tégéraud, en direct de Montpellier pour RTL. On va préciser, répéter que Samara va mieux, malgré sa commotion cérébrale, qu'elle devait être entendue par les enquêteurs dans la matinée, et que l'affaire est remontée jusqu'à Emmanuel Macron, qui à l'instant répète que rien ne justifie une agression pareille.
Et on reviendra évidemment dans les éditions prochaines sur cette affaire, les explications qui se présenteront sur ce drame de Montpellier.
À 13h, dans les auditeurs ont la parole, on ouvre avec ce sujet, le standard est ouvert, 32-10.
On vous raconte maintenant cet énorme pataquès autour d'un député macroniste qui a participé à l'émission télé de Cyril Hanouna.
Oui, le problème, c'est que notre homme, Quentin Bataillon, est le président de la commission d'enquête sur la TNT, donc la commission qui a auditionné Cyril Hanouna il y a quelques jours. Et en plus, ce député, sur le plateau de l'animateur du groupe Bolloré, a critiqué Yann Barthès, le concurrent numéro 1 de Cyril Hanouna. J'espère que tout est clair. En termes de neutralité, on a déjà vu beaucoup mieux. Thomas Desprez et le député Bataillon tentent de dégonfler cette polémique sans beaucoup de succès.
Oui, on va quand même tenter de rembobiner, hein, parce que depuis 24 heures, tout le monde lui tombe dessus. Première étape, mardi soir à 20h. Donc.
Thomas Bataillon, merci d'être avec nous.
Avec plaisir.
Merci. J'ai déjà un petit cadeau pour vous.
Quentin Bataillon, sur le plateau Touche pas à mon poste, interrogé sur le bilan qu'il fait des différentes auditions. Et là, il parle de Cyril Hanouna et de Yann Barthès, surtout.
Vous verrez Cyril Hanouna ou Yann Barthès?
En fait, vraiment, il y a une attitude assez arrogante dès le début. Il refusait de répondre à nos questions. Qu'à un moment, c'était quand même pas vraiment l'exercice.
Yann Barthès, arrogant, rire gras hein, sur le plateau, en même temps chez Cyril Hanouna, bon bah c'est l'habitude. Sauf que derrière sa télé, le rapporteur LFI de la commission d'enquête n'avait pas vraiment envie de rire. C'est lui hein, notamment qui avait demandé de convoquer Cyril Hanouna.
En agissant ainsi, il a jeté le discrédit sur l'ensemble de la commission d'enquête. Désormais, l'ensemble de la commission d'enquête est frappé d'un doute, qu'il y a une forme de complaisance à l'égard de Cyril Hanouna. C'est le rapport lui-même qui, au bout du compte, ne serait pas crédible.
Résultat, il a demandé au président de démissionner. Réponse du principal intéressé sur France Info.
C'est une maladresse et je le regrette. Mais si je ne vais plus dans les médias qu'on a auditionné, à ce moment-là, il ne faut plus du tout aller sur les chaînes de la TNT. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je serai le seul Français qui n'aurait pas le droit d'aller sur les plateaux de télévision.
Voilà, pas question de démissionner. Hein. La présidente de l'Assemblée, elle aussi, a rappelé à l'ordre le député Macron.
Merci beaucoup Thomas Desprez du service politique de RTL.
Direction Toulouse à présent, où la métropole doit confirmer la tarification de l'eau selon les saisons.
L'eau du robinet, plus chère pendant l'été, moins cher en hiver quand les réserves remontent un peu. Si le projet est définitivement validé par la métropole, ça serait une première en France pour une ville de cette taille, Patrick Hisson.
Oui, et pour le président de Toulouse Métropole, Jean-Luc Moudenc, il y a urgence à appliquer cette tarification saisonnière dès le 1er juin, car la situation des barrages qui alimentent la Garonne durant l'été est préoccupante.
Je m'interroge, quel été 2024 va-t-on vivre? Et donc effectivement, c'est maintenant qu'il faut décider les choses pour faire bouger les comportements dès l'été 2024.
Du 1er juin à fin octobre, le prix de l'eau sera donc augmenté de 42%, ce que comprend Stéphanie.
Je pense que c'est des choses à faire en tant que citoyen. D'essayer de faire attention à notre consommation. Donc ça me paraît logique.
Mais beaucoup moins Pascal, qui déjà n'arrose plus son jardin durant l'été.
C'est pas cette mesure qui va nous inciter à économiser plus. Je vois pas ce qu'on peut faire de plus.
Quant aux douches plus nombreuses durant les périodes très chaudes, leur impact sera très limité pour Robert Medina, vice-président de Toulouse Métropole.
En supposant qu'on prenne 90 douches de plus dans la période chaude, ça ferait 5 euros de plus sur l'année.
Après l'augmentation estivale, le prix de l'eau diminuera de 30% pour les 7 mois suivants, ce qui se traduira, assure Toulouse Métropole, par un prix stable sur une année entière.
Patrick Hisson, correspondant de RTL à Toulouse. Les recherches continuent toujours dans le hameau du Vernet, du Haut-Vernet, pour comprendre ce qui est arrivé à Émile. Le directeur général de la gendarmerie nationale s'est rendu sur place ce matin pour saluer les équipes mobilisées.
RTL Midi.
Joe Biden et Benjamin Netanyahou, doivent s'entretenir au téléphone dans la journée.
La colère ne retombe pas. Colère américaine, colère mondiale. Après la mort de 7 travailleurs humanitaires à Gaza, tués par des missiles de l'armée israélienne qui ont visé leur convoi. Les excuses et les explications d'Israël, pour l'instant, n'ont ni suffi ni convaincu. Écoutez la première prise de parole de José Andrés. C'est le patron de l'ONG World Central Kitchen, celle qui a été visée.
They were targeted.
Ils ont été visés intentionnellement, voiture par voiture. C'était un convoi humanitaire identifié avec des signes distinctifs sur le toit. C'est très clair qui nous sommes et ce que nous faisons. Ils ont été touchés délibérément, sans pause, jusqu'à ce qu'ils soient tous morts. Les travailleurs humanitaires et les civils ne devraient jamais payer les conséquences d'une guerre. C'est un principe basique d'humanité. Selon moi, ce n'est plus une guerre contre le terrorisme. C'est une guerre contre l'humanité en tant que telle. Vous ne pouvez pas détruire tous les immeubles, tous les hôpitaux, toutes les écoles, viser les humanitaires et les enfants. Vous ne pouvez pas détruire toute l'humanité.
Et les corps des 6 travailleurs étrangers sur les 7 victimes, une Australienne, un Polonais, un Américano-Canadien et 3 ressortissants britanniques sont en cours de rapatriement dans leurs pays respectifs. RTL, il est 12h40.
RTL Midi.
Et oh, Jaja. Voilà Emmanuel Macron qui réagit enfin à la polémique à Yann Nakamura.
Vous pourriez peut-être chanter à nouveau ce petit refrain de Yann Nakamura, allez-y.
On fait le silence.
Le silence dans le studio d'RTL. Céline, on vous écoute.
Oh, tcha tcha.
Ben, c'est parfait.
Il n'y a pas moyen, Céline. Le président de la République, on va expliquer un petit peu pourquoi on en parle. Emmanuel Macron a réagi enfin à la polémique à Yann Nakamura. Il inaugurait ce matin le centre aquatique olympique de Saint-Denis où on va retrouver Mourad Djabari en direct. Mourad, il a donc évoqué la cérémonie d'ouverture des Jeux et pour lui, la chanteuse franco-malienne a toute sa place malgré les critiques.
Oui, le président a voulu éteindre la polémique de ces dernières semaines en s'exprimant pour la première fois sur le cas Yann Nakamura. Je vous le rappelle, il a été évoqué la possibilité de lui faire chanter du Piaf lors de la cérémonie d'ouverture ou de clôture de ces JO. Cela avait provoqué l'indignation de la droite et de l'extrême droite, une vague de propos racistes aussi sur les réseaux sociaux. Pour le président, la chanteuse a toute sa place lors de ces Jeux Olympiques.
C'est une artiste qui est, je crois, pour parler en bon français, la plus streamée parmi les artistes francophones. Elle est partagée, elle parle à bon nombre de nos compatriotes et je pense qu'elle a tout à fait sa place dans une cérémonie d'ouverture ou de clôture des Jeux. Si elle fait partie avec d'autres artistes de cette cérémonie, je pense que c'est une bonne chose, parce que ces Jeux doivent nous ressembler.
Alors Emmanuel Macron n'a pas voulu dire davantage, il a précisé que la participation ou non de la chanteuse revenait aux organisateurs.
Mourad, vous nous dites quand même un mot de cet écrin, de ce bassin inauguré avec quelques cascades imprévues, je crois.
Oui, je vois où vous voulez en venir. Alors, c'était une inauguration en grande pompe, en son et lumière, pour le seul site pérenne construit pour ces JO de Paris, avec son toit en forme de vague, composé d'une charpente en bois, la plus grande du monde, tout simplement. Le Centre National Aquatique est un bâtiment incroyable qui tranche avec la forêt de béton qui l'entoure, posé face au métallique Stade de France. Tout cela livré avec un mois d'avance, c'est féliciter le président. Alors, pas de ruban rouge pour Emmanuel Macron, mais un buzzer qui a déclenché un spectacle proposé par les équipes de France de plongeon, de natation synchronisée et de water polo. Ces épreuves se dérouleront de ces trois sports dans cette nouvelle piscine. Des plongeons assez impressionnants d'une dizaine de mètres de haut, excepté et un petit raté. Un plongeur a rebondi plusieurs fois sur le plongeoir pour tomber ensuite à la renverse d'une façon assez désarticulée. Alors on a pensé quelques instants que ça faisait partie du spectacle, mais lorsque l'athlète est sorti de l'eau, le dos rougi, en se frontant la tête, on a vite compris que c'était le petit raté de cette cérémonie qui, dans l'ensemble, je le précise, était magnifique.
Merci beaucoup Mourad Djabari en direct de Saint-Denis pour RTL. On a une pensée pour ce plongeur, mais allez quand même voir les images.
Il a le temps de se remettre d'ici la compétition.
C'est un ratage olympique.
Ça arrive.
Je voulais juste te dire qu'on parlera dans...
Dites tout ce que vous voulez, Eric, c'est votre émission,
Nakamura,
allez-y.
Yann Nakamura également dans les auditeurs ont la parole à partir de 14h.
La météo, Peggy, pour cet après-midi.
Oui, avec Yann Nakamura, donc tout à l'heure.
Et ho, tcha tcha.
Et Céline, évidemment, elle va rester avec vous.
C'est une justification pour la pluie, c'est ça ?
Voilà.
Céline Landreau pour l'inauguration des Jeux Olympiques.
Vous imaginez un peu ? Eh ben oui, on a un temps pluvieux sur toute la moitié nord, en fait. On a des averses de ce matin qui sont en train de s'évacuer, mais on a un ciel de traîne, alternance de nuages, d'éclaircies, d'averses, des averses même orageuses attendues cet après-midi sur le Grand Est, le tout accompagné de vent, et une nouvelle perturbation qui arrive par la Bretagne et la Normandie, perturbation bien pluvieuse, voilà pour la moitié nord. Dans la moitié sud, c'est un temps sec et ensoleillé, plus ensoleillé d'ailleurs sur un quart sud, entre le sud de la Garonne et la région PACA. Côté température, elles sont en hausse et elles sont douces pour la saison. 15 à 18 degrés sur la moitié nord, 18 à 25 dans le sud. C'est dans le sud-ouest qu'il fait le plus chaud. Et un petit rappel, Lyon et l'Aube sont toujours en vigilance orange crue.
Merci Peggy. Dans un instant, la colère des buralistes. Désormais, les Français peuvent ramener d'un autre pays de l'Union Européenne plus de 200 cigarettes. Jusque-là, c'était limité à une cartouche. Et ça ne leur plaît pas, mais pas du tout.
Jusqu'à 13h, RTL Midi. Éric Brunet, Céline Landreau. RTL Midi. Avec Éric Brunet et Céline Landreau.
Jusque-là, c'était une cartouche, pas plus. Mais depuis samedi, pour se mettre en conformité avec le droit européen, la France a supprimé la limite de 200 cigarettes qu'un fumeur était autorisé à ramener d'un autre pays de l'UE. Décision dénoncée par les buralistes et notamment dans les zones frontalières.
Bonjour, bonjour Antoine Palombo.
Oui, bonjour. Bonjour les auditeurs.
Vous êtes le président de la Fédération des buralistes du département de la Moselle.
Tout à fait, oui.
Alors, première question, la levée de ce seuil, c'est une très, très mauvaise nouvelle, j'imagine, pour tous les libéralistes de France et en particulier pour ceux qui sont dans des départements proches d'une frontière européenne.
Non, mais je vais quand même... Vous avez une lecture des choses au niveau des médias qui me surprend des fois.
Allez-y.
Donc il y a une directive qui a été posée, mais je vais vous poser une question. La France se trouve toujours dans l'Union européenne.
Oui.
Donc on s'est mis en conformité avec la directive européenne. C'est-à-dire les quatre cartouches, il n'y a plus de... Il n'y a plus la cartouche, les 200 cigarettes ou les 50 cigares.
Mais c'est exactement moment, ce qu'on voilà. dit. Désormais, donc, un Français qui habite dans votre département a bien le sûr. Droit légalement d'aller acheter 4 cartouches et non plus une seule dans le pays d'à côté. Oui. Donc je redis ce que je disais, c'est pas une bonne nouvelle pour le buraliste qui travaille par exemple à Metz ou à Nancy, bref, dans l'Est, ou ceux qui habitent à côté des Pyrénées par exemple, ou près de la frontière italienne.
Oui, donc il faut bien lire le décret, c'est-à-dire que le nouveau décret vise à doter les agents, je dirais, des douanes, à avoir une lecture différente. Donc on n'est plus dans la, je dirais, dans la consommation personnelle, mais aussi dans la commercialisation. Donc si une personne va partir s'alimenter dans les réseaux étrangers, à partir du moment d'une cartouche, deux cartouches, trois cartouches, mais quand c'est des produits différents, est-ce que vous pensez que c'est de la consommation personnelle ?
C'est ça, en fait, le décret est rédigé être un peu clair, d'une telle manière qu'il laisse aux forces de l'ordre l'interprétation de la consommation personnelle ou non. Et s'il y a un doute, si on pense que cette consommation, même s'il n'y a que 4 cartouches, n'est pas personnelle, il peut y avoir sanction. C'est ce que vous êtes en train de nous dire.
Exactement. Donc je peux rassurer mes collègues frontaliers et français... Et avertir les gens qui seraient susceptibles d'aller vouloir s'alimenter l'autre côté de la frontière, de ne pas rapporter n'importe quoi.
D'accord. Voilà. D'abord, encore faut-il qu'il y ait des contrôles.
Mais justement, c'est ce qu'on va faire, et c'est ce que l'État nous a promis. Les douaniers nous ont promis aussi, c'est qu'il va y avoir des contrôles beaucoup plus accentués. La preuve, il y a eu la semaine dernière ce qu'on appelle le plan Colbert, où il y a eu 27 tonnes de tabac de saisie. Et 108 interpellations.
Donc, à vous entendre, c'est pas si grave que ça, cette mise en conformité.
Comment ?
À vous entendre, elle n'est pas si grave que ça, cette mise en conformité pour les buralistes avec le droit européen.
Mais non, mais on a crié au loup, au loup, au loup. Non, non, on est en Europe. Donc, on revient, si vous voulez, aux 4 cartouches qui étaient la situation précédente, effectivement.
Bien sûr.
Mais aujourd'hui, les douaniers pourront verbaliser une personne qui a 2 cartouches.
Si c'est pas pour sa consommation personnelle, oui, c'est ce qu'on expliquait il y a quelques minutes.
Le drame, c'est que dès qu'on fait des choses comme ça en Europe, la France, qui est un des pays qui taxe le plus de l'Union européenne, se trouve toujours en situation délicate, car quand on compare les fiscalités qui pèsent sur la cigarette au Luxembourg, en Allemagne, en Espagne, en Italie, vous voulez, et en France, c'est en France qu'elles sont souvent les plus chères. Donc ce genre de disposition européenne, ça nous défavorise très souvent quand même. Antoine Palombo.
Oui, ben justement, là, il va falloir enfin prendre conscience qu'il nous faut un moratoire. On ne peut pas continuer cette escalade, on ne peut pas être toujours en avant, les premiers devant, et montrer la voie. Donc à un moment donné, il faut avoir du bon sens dans ce pays.
Ça veut dire fixer un prix européen de la cigarette, par exemple, vous iriez jusque-là ?
Déjà rapprocher les fiscalités, c'est une demande au niveau européen.
Le prix d'un paquet de cigarettes entre ce que vous vendez vous et ce que vendent vos voisins allemands, luxembourgeois, la différence, elle est de combien ?
Du simple au double, quelquefois.
Vous imaginez ?
Voilà. Mais on parle aussi de santé publique, madame. Et ça, on a oublié d'en parler. On parle quand même de santé publique aussi. Donc je pense que la santé n'est pas franco-française uniquement.
Oui, mais c'est pour ça que ce rêve d'une harmonisation des fiscalités européennes, ce serait l'idéal. Sauf que on en parle, Antoine Palombo, pour les cigarettes, mais pour tout, pour les taxes, pour les impôts, depuis des décennies, et c'est une chimère, c'est un fantasme. Y aura pas, on connaîtra peut-être jamais nous-mêmes une fiscalité européenne harmonisée entre la Hongrie, la Suède, la France, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, le Luxembourg, à mon avis, c'est pas prêt d'arriver.
Non, mais je vous parle de santé européenne, donc je pense que l'Europe a son rôle à jouer là-dedans. je pense. Je ne sais pas, je n'ai pas un produit
anodin.
Lambda.
Vous avez raison sur le papier. Antoine Palombeau, donc président de la Fédération des buralistes de Moselle, le département de la Moselle, le 57. Merci d'avoir passé ces quelques instants avec nous.
Dans un instant, votre page culture, laissez-vous tenter midi. On va parler d'une comédie musicale qui fait un tabac, pardon pour le jeu de mots, depuis des années.
On vous emmène
dans les coulisses du Roi
Lion.
Vous
chantez Aya Nakamura. Aya Nakamura. Vous faites des jokes, des blagounettes, c'est des calembours. On ne vous arrête plus, Céline Landreau.
RTL Midi. Éric Brunet, Céline Landreau. RTL. Laissez-vous tenter midi.
Comme chaque jour, la culture s'invite à la table d'RTL Midi et une visite incontournable maintenant si vous venez à Paris pendant les vacances de Pâques, au même titre que la Tour Eiffel ou Montmartre, c'est la comédie musicale Le Roi Lion au théâtre Mogador qui depuis 2007 cumule plus de 2 300 000 spectateurs. Bonjour Laurent Marsic.
Bonjour.
Alors pour la première fois, la production a accepté de montrer l'énorme machinerie que représente Le Roi Lion et vous avez donc vécu le spectacle, non pas dans la salle, mais depuis les coulisses.
Exactement. Et se glisser dans les coulisses du Roi Lion, c'est un peu comme entrer dans une immense horloge où tout est calé à la seconde près.
Bienvenue au théâtre Mogador pour cette représentation du Roi Lion.
Il est un peu plus de 18h au théâtre Mogador. Ça fait déjà plusieurs heures que la troupe se prépare. Au maquillage notamment, certains personnages demandent un long et patient travail au pinceau.
Là, je maquille le personnage de Zazou. Zazou représente le ciel sur lequel la pupette se pose. D'où le fait qu'il soit entièrement bleu. C'est un make-up qui prend une heure, pose de perruque et chapeau compris. Cou, oreille, on doit plus voir un centimètre de sa peau à lui.
Attention, sur les triolets noirs dans le kit-bot, on n'est pas super ensemble.
Pendant ce temps, dans la salle, on l'entend, le chef d'orchestre, 11 musiciens invisibles du public, répètent une dernière fois. À la baguette, Dominique Trotten, le chef, qui dirige ses musiciens, donc sans les voir.
Face à moi, il y a une caméra, et chaque musicien à côté de leur pupitre a un petit écran, et il me voit donc par ce moniteur.
Chaque musicien est installé dans une cage acoustique.
Une cage acoustique, c'est quoi le but ?
Eh ben, on va aller dans la fosse. La cage acoustique isole. Tiens, on va ouvrir la porte des percussions. Vous allez comprendre pourquoi on isole. On n'entend plus la musique. On entend que les percus. Voilà. Pause déjeuner avant le spectacle, alors que les enfants se calent une dernière fois.
Jolie pose de lion, ok ? Et après, pensez que vous... Baissez le dos pour passer sous la tête des girafes.
Répétition sur scène et on va filer deux étages plus haut dans les loges. Des rôles-titres qui enfilent leurs costumes. 20 kilos d'appareillage pour Olivier Bretman qui incarne le méchant Scar. Il a un masque de lion à gérer. En fait, le masque descend devant son visage. On va les voir dans la loge.
Là, il y a tout le mécanisme avec des moteurs, des batteries et tous les câbles qui me courent dans le dos pour pouvoir actionner le masque puisque le masque est mobile.
5 minutes. 5 minutes.
Je vais vous laisser partir.
On est à 5 minutes, donc là on va bientôt aller en coulisses.
On va laisser partout des écrans autour de nous, on va filer dans la coursive, derrière le public, parce que l'entrée d'une partie de la troupe va se faire par là, au début du spectacle.
Donc là on est dans la coursive, on est à l'arrière de la salle, et en fait tout ce qu'on appelle les ensembles chanteurs vont partir d'ici en fait.
Et les télés partout pour que...
Les premières notes du spectacle, tu vas voir tous les chanteurs qui sont arrivés sur l'écran pour suivre le chef.
Parce qu'ils chantent tous en coulisses, ils ont des micros et ils chantent parfois en permanence. Quand ils sont même en train de se changer, on les entend chanter. Sur la scène, il y a des danseuses qui enlèvent leur coiffe en coulisses côté jardin. Des habilleuses sont en ligne, bras tendus. Vous savez, comme pour une course de relais. Et en moins de 4 secondes, elles doivent réceptionner, ranger les coiffes des danseuses qui... Parce qu'au même moment, il y a un éléphant qui était suspendu en haut dans le ciel qui va descendre sur la scène. On s'écarte, on emprunte un escalier, on va monter 8 mètres au-dessus de la scène. C'est d'ici que chaque décor qui se déplace seul sur scène est géré par 2 opérateurs.
Il y a à peu près 7 tonnes et demie de décor Roi Lion et il y a 7 tonnes de lumière. Donc il y a un peu plus de 14 tonnes au-dessus de la tête des artistes.
14 tonnes suspendues à des cintres. On retourne en salle, direction cette fois-ci le bunker. On est sous la scène, c'est une autre ruche. Ici, on change de costume, temps imparti, moins d'une minute.
Exactement, on a des habilleuses en fait, qui nous préparent déjà les costumes ouverts, nos chaussures déjà positionnées, comme ça on a juste à les enfiler.
En cas de problème, il y a David et Guilin, leur équipe de marionnettes qui sont prêts à dégainer tournevis, clé à Allen et au pire...
J'ai des tournevis, des ciseaux, des clés à Allen, clés à pipe. J'ai des clés spécifiques pour les marionnettes, ça c'est pour les hyènes. J'ai du scotch noir, parce que des fois, bah, on n'a pas le choix, ça finit au scotch. Hop, on fait ce qu'on peut. On a un kit de couture avec du fil et des aiguilles déjà prêtes. Comme ça, on passe pas 3 heures à passer dans le chat, dans le noir. Tout pour pouvoir intervenir le plus rapidement possible.
Prêt aussi, Bruno, le kiné qu'on croise au détour d'un couloir. Lui, le kiné, il travaille, dit-il, avec des sportifs de haut niveau.
On se retrouve avec des pathologies sportives en vérité. Comme on voit ça au tennis, des traumatismes comme on voit dans le foot ou dans des sports de contact.
On sent que le temps, c'est l'obsession de chacun, Laurent.
Oui, et en premier lieu, d'une jeune femme installée dans une cabine au fond de la salle, les yeux rivés sur des écrans. Elle est la maîtresse du temps, la chef d'orchestre de la mise en scène. On l'appelle la topeuse.
C'est la chef d'orchestre technique du spectacle. Donc, c'est-à-dire que c'est elle qui envoie tous les effets lumière, tous les mouvements de décor, tous les mouvements de machinerie. Et s'il y a un problème, c'est elle qui va prendre les décisions, qui va trancher et qui va mettre en place les plans de contingence. C'est un plan B, en fait. Donc c'est un poste hyper important. Et on ne peut pas faire un show sans elle.
Le spectacle touche à sa fin. La magie du Roi Lion a encore fonctionné. Allez le voir au Théâtre Mogador jusqu'en juillet, avant une nouvelle saison, évidemment. Vous l'avez dit au début, à Paris, il y a la Tour Eiffel, il y a Montmartre et aujourd'hui, il y a le Roi Lion.
Et ça a l'air formidable. Merci beaucoup, Laurent Marsica.
C'est un reportage immersif. Merci. Dans un instant, nous allons parler dans les auditeurs. On a la parole de Samara, 14 ans, rouée de coups devant son collège à Montpellier par d'autres jeunes. C'était mardi sur fond de harcèlement scolaire. 32-10 est ouvert. À tout de suite.
RTL Midi.